Jerry, en affreux joual multicolore, a d'abord voulu sacrer hors de son établissement pour tout jamais la gang complète à Cindy, mais elle a protesté avec raison et ses amis et tout, et comme on n'avait rien à contredire de leur version exacte, incriminant Turbide, il n'a eu d'autre choix, Jerry, que de se rendre à l'évidence que son boss boy avait un bardeau slack. Il lui a donc d'abord dit que ses services n'étaient plus requis pour la veillée. On a pris nos clics, nos claques, avec lui par solidarité fraternelle, et à bout de souffle et de mots, on est rentré chacun chez soi. Phil est resté pour finir son quart, en calvaire comme de raison, et quand Jerry a demandé à lui parler au moment de la fermeture pour savoir son avis sur toute l'affaire en général et sur son chummy Turbide en particulier, Phil a répondu de quoi comme « Calisse-les dehors, je m'en tabarnak ». Ce qu'a fait le J.R.R. Jerry, dès le lendemain, sans regret ni remords, ni aucune autre espèce de complexe état d'âme. François Racine est l'auteur de 3 romans. Ce que je viens de vous lire est un extrait de son plus récent, Turbide, qui a été précédé par Truculence, un récit de route où une bande d'enseignants en cavale profite de la grève étudiante pour donner la chasse à un de leurs amis en fugue, et par Tabagie, relatant les péripéties d'un étudiant en littérature déchiré entre son amour de Proust, de Céline et des femmes. Ceci étant dit, il devient presque redondant de vous donner quelques notes biographiques sur François, lui-même enseignant de littérature au niveau collégial et fervent lecteur des turpitudes proustiennes et céliniennes. Je vous dirai quand même qu'il est tout fraîchement papa et que c'est accompagné de son amoureuse et de leur minuscule Théo qu'ils se sont présentés chez l'éditeur. Et qu'à voir briller ses yeux, on ne doute pas qu'il s'est trouvé un nouveau maître à penser en la personne de ce tout petit être gazouillant. Il a quand même eu la gentillesse de prendre quelques heures pour retourner fouiller dans ses cartons et débusquer pour notre plus grand plaisir une œuvre de jeunesse, une saga échevelée avec quelques petits enjeux au niveau de la cohérence temporelle et de la ponctuation. Étonnant pour qui connaît la prose maîtrisée qui caractérise aujourd'hui l'écriture de François, mais bon, faut bien commencer quelque part. Pour nous mettre en contexte un peu oui. Par rapport à ce que tu vas nous lire, parce que c'est pas des textes avec une forme
imposée, pas du tout.
C'est quelque chose que tu écrivais à ton rythme, tu lisais à tes collègues de classe.
Oui, c'est ça. Pour mettre en contexte, là, c'est des textes que j'ai écrits quand j'étais dans une école alternative. Un genre d'école primaire où il n'y a pas de devoirs, où il n'y a pas d'enseignement magistral, il n'y a pas d'examen non plus, ni pendant l'année, ni à la fin. Sauf à la fin du parcours, là, en sixième année, bien, évidemment, pour entrer au secondaire, il faut quand même qu'il y ait une barre qui soit mise quelque part. Mais bref, on était à peu près maître de notre destinée là, avec un encadrement. Ça voulait dire qu'on avait des projets de toutes sortes là, qui devaient toucher à différentes matières, évidemment. Mais on pouvait, par exemple, décider de faire un projet de texte sur un sujet qui nous préoccupait ou qui nous intéressait en toute liberté. Puis ensuite, bien, au rassemblement, c'est-à-dire quand on s'assoyait en cercle en début de journée puis à la fin de la journée pour discuter de différents sujets, à ce moment-là, on pouvait lire les textes qu'on avait écrits. Donc moi, les textes que je vais vous présenter là, aujourd'hui, Jean-Paul, la série de 1 à 10, bien, c'est justement des textes que j'ai lus devant mes camarades de classe sous forme de feuilleton. Puis c'est ça, à cette époque-là, en tant que petit gars de 9 ans, bien, il y avait certains noms qui me faisaient beaucoup rire. Des noms d'adultes, souvent d'hommes dans la cinquantaine. Et je trouvais ça très drôle d'associer des noms comme ceux-là à des personnages qui créeraient une sorte de rupture absurde entre le nom et ce qu'il désigne. Alors Jean-Paul, ben pour là, ça va, c'est un fermier. Donc c'est un homme probablement dans la cinquantaine, on suppose. Alors lui, il porte bien son nom. Mais ensuite, on a son cochon qui s'appelle Gérard. Donc déjà, effet comique là, qui était voulu. Il y a des gens qui font ça, qui appellent leur chat Roger. Moi, c'est un poussin que j'ai appelé Roger dans ce texte-là. Donc le petit poussin Roger, qui est le fils d'un couple de poules LGBTQ+, probablement, qui se nomment Julienne et Julienne, une avec un E et l'autre sans E. Alors on a donc Jean-Paul le fermier, Gérard le cochon, et Gérard va se transformer en Gérald au fil du temps. D'où l'importance d'un travail éditorial sérieux. Finalement, je trouvais que Gérald, c'était plus drôle que Gérard, alors j'ai gardé Gérald. Julienne et Julienne, les deux poules, Roger le poussin. Et le poussin, Roger, est amoureux de la pouliche Georgette. Georgette, comme dans beaucoup de mes romans, ben, c'est le personnage de fille qui est un peu extérieur au groupe de gars. Je trouvais ça très drôle de titrer ma série Jean-Paul, parce que le pape, à cette époque-là, c'était Jean-Paul II. Alors, ça commençait avec Jean-Paul I, et là, moi, je trouvais ça très drôle dans ma mentalité de petit gars qu'après ça, on arrive à Jean-Paul II, puis Jean-Paul III, Jean-Paul IV, etc., jusqu'à 10. Alors, Jean-Paul I. Monsieur Jean-Paul vivait en paix à la campagne. Il avait deux poules et un cochon. Le cochon s'appelait Gérard, et les deux poules s'appelaient Julienne avec un E et Julienne sans E. Le matin, Julienne et Julienne chantent tout le temps. Cocorico! Alors, c'est des poules qui chantent quand le matin vient. Encore une fois, le travail d'éditeur est essentiel ici. Grrr, dit Gérard. Il est 6 heures du matin et Julienne chantent. Quelle vie! Ça, c'est le cochon qui se plaint. Dans la belle petite maison dans la vallée, oh et oh et, chante Jean-Paul en sortant de son lit. Le fermier, lui, est de bonne humeur. Le matin, il se lève. Tout est beau. Je vais mourir, Gérard, dit Jean-Paul. Ah non, je vais nourrir Gérard. De l'importance de la ponctuation. Et de faire des lettres attachées lisibles. Oh, que c'est mignon, Julienne et Julienne viennent d'accoucher un petit poussin. Le petit poussin va s'appeler Roger. Oui, bonne idée, dit Gérard. Je vais aller prendre un bain debout. Ça, c'est le cochon, toujours. Wash, dit Jean-Paul. À suivre. Alors ça, c'était le premier épisode, donc lu devant public une première fois en 1993, une deuxième fois aujourd'hui.
À ce jour, comme vous l'avez entendu dans l'extrait, François aime beaucoup jouer avec les noms de ses personnages, qu'il charge allègrement de sens et pimente de contractions et jeux de mots. Ils seront plusieurs à vous dire que le choix du nom dans les personnages n'est pas anodin. C'est la première étape pour doter ces créatures de vie, de personnalité. Si je vous dis « gros moité », par exemple, je suis sûre que vous avez déjà une image de lui et de l'ami qui s'est permis de déformer ainsi le nom de son copain intime.
Jean-Paul II. Alors là, on arrive à l'épisode tant attendu, celui du pape. « Je vais aller à l'épicerie », dit Jean-Paul. 2 heures plus tard, Jean-Paul revient avec du porc. « Hey, tu es raciste », dit Gérald. Gérald, c'est le cochon. « Et pour dessert, demande Julienne, pond-moi 2 œufs, dit Jean-Paul. Je vais faire un gâteau. Youpi, dit toute la famille. Mais un gâteau à quoi, dit Gérald. Au chocolat, dit Jean-Paul. You got the right one, baby, dit Gérald. Parenthèse, moi, le franglais, ça me tombe ses nerfs au bout. À l'époque, j'avais par contre un ami qui était anglophone qui a travaillé sur ces textes-là avec moi. Il s'appelait Timothée. Aucun lien avec gros moté dans Turbide, ceci étant dit. Mais Timothée, donc, lui, en étant anglophone, avait contribué au texte, notamment avec ces formulations-là, anglaises, qui me ressemblent pas tant. Alors, « You got the right one, baby », dit Gérald, le cochon. Et Jean-Paul, lui, parle pas très bien anglais, alors il répond, « Ben, oui, j'ai le right one, baby. Bon, t'as-tu fini de pondre les œufs? Oui, on arrive. J'ai besoin de beurre. Oh non, il n'y a plus de beurre au village. Bon, ben, tant pis, je vais prendre de la graisse Crisco. » Placement de produit, je sais pas d'où ça vient, j'ai pas été payé. J'ai besoin de chocolat, de sucre, etc., etc. Il suffit de le mettre dans le four et ça sera prêt dans 1h30. Julienne, va réveiller Roger. D'accord, dit Julienne. Roger, dit Julienne, réveille-toi. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Paul fait un gâteau au chocolat. Party, dit Roger.
Alors, déjà, le thème de la fête s'installe. Oui.
Le gâteau revient souvent, j'ai remarqué.
C'est l'équivalent de l'alcool, en fait, je pense, pour un enfant de 9 ans.
Exactement.
C'est le buzz de sucre.
Les plaisirs varient avec les époques.
Dans les épisodes suivants, les joyeux drilles de la borne à Jean-Paul allèrent au bal et cuisinèrent un gâteau. Bon, le lien d'un épisode à l'autre n'est pas toujours clair, mais on a un jeune auteur en herbe qui s'amuse ferme et émaille ses histoires de référence à 1000 choses de son environnement. Si certaines blagues nous échappent ou ne font que chatouiller nos rates d'adultes revenus de tout, on se doute bien que son public constitué de collègues de classe devait se bidonner ferme. La clé de l'humour, les référents partagés. De l'importance de n'être pas trop hermétique dans ses récits. Bon, heureusement, aujourd'hui, on a François pour nous expliquer le sous-texte.
Alors, Jean-Paul 7. 2 heures plus tard, Roger revient chez Jean-Paul et Georgette revient chez elle. Alors là, c'est pas clair, là. Il était déjà chez elle en principe, mais elle revient chez elle quand même. Bon, j'avais 9 ans. Voilà. C'est le temps de se coucher, dit Jean-Paul. Non, dit Roger. Je veux rester debout. D'accord, dit Jean-Paul, mais pas trop tard. Oh, je vais écouter Félix et Ciboulette. C'est une émission de mon enfance. Oups, ce n'est pas à 3 heures du matin, Félix et Ciboulette, mais il y a des films intéressants. Alors là, c'est une référence à Bleu Nuit. Ça, c'est Timothée. C'est lui qui m'a appris ces choses-là, qui m'a dépravé. C'est sa faute. Donc, tout ce qui est en anglais, tout ce qui est de la sexualité, le nudisme, tantôt, c'est Timothée.
On salue Timothée.
C'est salut Timothée. 2 heures plus tard, Debout, dit Jean-Paul. Ah, laisse-moi dormir. Il faut que tu te lèves, dit Jean-Paul. Mais je ne veux pas me lever. Ah bon? On aurait pu aller à la plage. Tant pis. Je pense que je vais me lever. D'accord, on déjeune et après on part, dit Gérald. Arrivé à la plage, Julienne et Julienne plongent dans l'eau et ils se cognent la tête au fond. Oh, pauvre Julienne et Julienne, dit Jean-Paul, ils ont plongé dans l'eau peu profonde. À suivre.
Plaît-il? Ils sont partis quand? Combien de temps a duré le trajet? Des fois, quand il manque des réponses, le plus simple est de retrancher les questions. Donner des repères temporels trop précis, on l'a déjà dit avec Stéphane Dompierre, est un sale piège qui peut obliger l'auteur à les démultiplier pour assurer la cohérence temporelle de toutes ses péripéties. Mieux vaut en dire moins, se fier aux actions et au contexte pour nous situer dans le temps. S'il fait noir et que le héros enfile son pyjama, c'est le soir, basta. Peu importe qu'il soit 10h ou 10h20.
Alors là, on est au Jean-Paul 8, qui fait deux lignes, pour une raison que je m'explique mal. Jean-Paul est le camp de nudistes. Ensuite, ça va être Jean-Paul 9. Donc, Jean-Paul 8. Une demi-heure plus tard, ils ont vu des gens tout nus passer devant eux et Gérald, trois petits points. Et ça se poursuit avec le camp de nudistes. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Jean-Paul 9. Il se déshabille et le gardien commence à rire. Ha ha ha, vous êtes drôle tout nus. 5 minutes plus tard, il voit une fille et Jean-Paul lui demande son nom. « C'est quoi votre nom? »« Ginette, » dit la fille. C'est un autre nom que je trouvais très drôle à cette époque-là. Et la fille continue en disant « Vous êtes laid. »« Merci, » disent les autres, « on l'avait déjà oublié. »« Goodbye. » 5 minutes plus tard, « Elle aurait pu être plus polie, » dit Gérald. « Tu as raison, » dit Julienne et Julienne. Après une longue marche, ils arrivèrent à l'autoroute. Tout le monde en auto riait en les voyant. « Pourquoi ils rient, » dit Gérald. « Oh, je sais, on a dépassé le camp. » Et eux, ils nous ont vus tout nus. Alors, Jean-Paul 10, c'est le dernier. 2 heures plus tard, ils arrivèrent chez Jean-Paul. « Oh, dit Jean-Paul, j'avais oublié, aujourd'hui c'est ma fête. »« Bonne fête, Jean-Paul, merci tout le monde, je suis le meilleur. »« Na 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 na, na 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 na, yeah, goodbye. » »« Ok, c'est correct, dit Gérald. »« On va te préparer un gâteau, dit Roger. » Une demi-heure plus tard, Roger, Gérald, Julienne et Julienne arrivent avec un gâteau tout brun. « Il est à quoi votre gâteau? »« Devine, dit Roger. » »« Au chocolat? » »« Non. » Aux fruits? Non plus. Aux amandes? Non. Aux dattes? Oui, dit Gérald, tu as gagné! Et Jean-Paul tombe dans les pommes. Qu'est-ce que tu as? Dit Julienne et Julienne. Dit Jean-Paul, un gâteau aux dattes? Oui, pourquoi? Et il retombe dans les pommes. Une demi-heure plus tard, Jean-Paul se réveille. Vous pouvez le manger tout seul, votre gâteau. D'accord, dit Roger, on va le manger. Une seconde et 3/10 plus tard, on a fini, dit Gérald. Party, dit Jean-Paul. Quoi, dit Roger? Tu veux-tu te battre? Parce que Jean-Paul est content que le gâteau soit fini de manger, enfin. Lui qui n'aime pas les dattes. Alors, les autres animaux sont vexés. C'est eux qui l'ont préparé avec amour. Il n'a rien voulu savoir. Il est content qu'il n'en reste plus. Alors, Roger dit le poussin. Dit quoi, tu veux-tu te battre? Oui, dit Jean-Paul. OK. Paf. Hey, non, on a changé d'idée, dit Gérald. OK, maintenant, il faut fêter cela. La, 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 la.
Ah, je me demandais c'était quoi la chanson à la fin parce que
j'ai aucune idée.
La, la. Ça peut être l'air des Schtroumpfs aussi. La 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 la. Ouais. On sent bien dans l'écriture de François et aujourd'hui bien plus qu'à l'époque évidemment, l'amour incommensurable qu'il a de la langue française. Ça ne veut pas dire qu'il se gargarise de phrases ronflantes, tout au contraire. Maître de ses mots, il les utilise de façon efficace pour créer des effets et ancrer ses histoires et personnages dans le réel.
C'est une trilogie qui partage des mêmes thématiques, puis un même travail stylistique, on pourrait dire triptyque aussi, mais il n'y a pas de personnages qui se suivent d'un récit à l'autre, donc
ça serait
on peut
quoi,
commencer quand on veut. Puis, les thématiques, c'est la pulsion, c'est tout ce qui, c'est toute la part d'ombre dans l'humain, c'est aussi le désir de s'oublier à travers la fête, à travers les dérapages amicaux, l'alcool, la sexualité, etc. La maladie mentale, ça occupe une part importante. Je dirais que ça serait les thématiques centrales là, dans
les relations de gang aussi, d'amitié.
La relation de groupe aussi est très importante, là, surtout dans les tomes 1 et 3,
ouais.
Truculence, Turbide. Tabagie un peu moins. Mais oui, effectivement.
Tu as toute la dynamique de colocation dans ta Tabagie qui vient amener quand même Ou à mesure qu'il disparaisse ou réapparaisse selon où il est rendu dans sa relation avec la funambule.
Oui, c'est ça. La gang de gars là, est très importante là, dans ces trois textes-là.
Des gars qui ont tous aussi entre 24, 35 ans.
C'est une sorte d'adolescence qui s'étire et qui ne veut pas finir, finalement. Donc, c'est ça, une sorte d'adolescence qui s'étire, un âge adulte qui ne veut pas arriver. Finalement, avec Turbide, sans vendre de punch, ben ça finit par arriver, là, un peu de façon inattendue. Mais c'est ça, des gens qui se cherchent et qui veulent pas accepter de vieillir, finalement.
Qui sont un peu à la fois des freins et des moteurs, les uns pour les autres, là, qui se poussent à avancer et qui, en même temps, sortir dans les...
Oui, c'est une valse hésitation, on peut dire. Ils se nuisent, ils se mettent les bâtons dans les roues, ils s'aident. C'est pas toujours facile, hein, les relations les amitiés et les relations humaines au sens large.
Ils ne se gênent pas pour se varloper un l'autre non plus. Là, ils se parlent...
Oui, les rapports amoureux sont très présents dans mes trois textes.
Il n'y a pas de complaisance là, dans ces amitiés-là.
Pas vraiment. Je pense que ça... Ben, évidemment, ils se disent pas tout, là, comme dans n'importe quelle relation humaine. On peut pas tout dire, puisqu'on n'arrive pas à se comprendre soi-même complètement. Alors, comment arriver à tout dire sur soi? Mais voilà, ils sont dans une sorte de zone grise, de zone de conflit, d'amour fou aussi, parfois.
Dans le fond, des choses que tu faisais déjà vivre à tes personnages quand tu avais 9 ans?
Je pense que oui.
Dresser des listes d'expressions colorées, riches, étonnantes. Exercice fort amusant, surtout les jours de page blanche. Plutôt que de fuir le clavier, pourquoi ne pas le nourrir à coups d'ingrédients à bâton rompu, sans la pression de la phrase parfaitement tournée? Le danger étant par ailleurs de se perdre dans les méandres de la recherche et de ne plus jamais revenir au réel travail d'écriture, bien sûr. En toute chose, une mesure. Il y avait, avec Tabagie, je crois qu'il y avait l'aide québécoise qui t'avait comparé, qui avait dit que tu étais quelque part à mi-chemin entre Louis-Ferdinand Céline, Victor Lévy-Beaulieu et Régent du Charme dans ton narratif.
Là, ça fait un mi-chemin tripartite.
Ça fait une belle comparaison. Est-ce que tu dirais que c'est des influences, que c'est des auteurs qui ont...
C'est très clair, très, très clair.
Mais c'est sûr que dans ta magie, il y a question littéralement.
Ça a changé ma vie de lire ces gens-là. Là. Puis évidemment, ça a changé ma façon d'écrire complètement. Là. Avant, j'écrivais plus comme Proust. En tout cas, j'essayais. Évidemment, on essaye. Puis Dostoïevski, c'était une grosse influence aussi. Les classiques, c'était pas mal là-dedans que je me situais. Puis un jour, j'ai lu Joyce aussi, Ulysse. Sans comprendre grand-chose. Un petit peu comme Lydie en parle dans Truculence. Il l'a lu, il n'a rien compris, mais c'est beau quand même. Puis ça sert à ça, la littérature aussi, c'est de nous mettre en face de la beauté sans qu'on puisse la saisir puis l'emprisonner dans un concept rationnel. Mais j'ai vu là-dedans une liberté dans le langage qui était totale. Puis après ça, je me suis dit, moi aussi, j'ai droit à ça. Tu sais, je suis pas obligé de rester emprisonné dans une manière d'écrire quelconque.
Ensuite, tu permets de mélanger. Tu as une écriture qui est à la fois très soutenue, très riche littérairement, avec un vocabulaire énorme, avec des constructions de phrases, des constructions d'idées très, très riches. Je te le dis en toute sincérité.
Merci.
Et en même temps, tu as des dialogues et des échanges entre tes personnages qui sont en joual, pas un joual archaïque, là, pas folklorique, mais quelque chose qui est ni anglicisant. Tu ne verses pas du tout dans l'emprunt à l'anglais dans tes échanges entre tes personnages.
En tout cas, s'il y a eu emprunt à l'anglais, il faut que le mot ait voyagé.
Oui.
Pour moi, c'est ça l'important. Il faut qu'il y ait une histoire derrière ce mot-là. Il ne faut pas que ça soit simplement la reprise telle quelle d'un mot anglais par paresse ou par habitude. Il faut qu'on puisse sentir qu'il y a une histoire derrière ça. Par exemple, le mot « trahler », c'est un mot que j'adore, mais qui vient de l'anglais, qui vient du mot « crowd », donc une foule. Et à force de prononcer « crowd »,« crawl »,« crawler »,« trahler », ça a fini par se transformer complètement, puis c'est devenu un mot qui nous appartient. Mais dire « crowd » à la place, ça ne m'intéresse pas, je trouve ça facile. Dire « trahler », je trouve que ça a quelque chose de beau. Il y a de nous tous là-dedans.
Parce que tu vas aller dans toute cette histoire de la langue.
C'est beaucoup de canadianisme que j'ai essayé de ramener au goût du jour. Je pense que dans Turbide, c'est là que je suis allé le plus loin là, avec ce projet-là. J'ai parcouru du début à la fin le dictionnaire des expressions québécoises de Pierre Desruisseaux, qui est décédé l'an dernier ou l'autre d'avant, je pense. Le dictionnaire de la langue québécoise de Léandre Bergeron aussi, personnage très coloré. Puis quand il y avait un mot que je trouvais beau puis qui me parlait, je me suis dit, je vais le garder. Puis après ça, ça a été un travail de transformer, d'interchanger les mots de la langue française habituelle par ces mots-là pour essayer de laisser des traces de notre histoire, justement, dans une langue qui se voulait actuelle aussi, là. Puis le mélange langue littéraire, langue parlée, c'est Céline. Ça. C'est en fait ce que j'ai essayé de faire un peu, c'est de m'inspirer de du procédé célinien qui était de mélanger la langue de l'argot français, la langue parlée des pauvres, des gens qui n'ont pas de moyens de s'exprimer, de mélanger ça avec la langue littéraire dans son œuvre, dans la parole même du narrateur aussi, mais de faire ça avec nos mots d'ici. Donc de garder l'équilibre. Il ne faut pas que ça sonne tout à fait comme on parle, mais il ne faut pas que ça sonne non plus tout à fait comme un livre. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre les deux, trouver la musicalité.
Donc, tu lis à voix haute.
Que ça permet aussi. Je ne lis pas à voix haute, mais j'essaie de l'entendre dans ma tête le plus possible. Il faut que ça sonne bien.
Mais pendant qu'on parle des voix dans ta tête...
Oui, allons-y.
tu parlais tantôt du thème de la santé mentale comme un des thèmes qui revenait beaucoup dans tes trois livres hantés. Est-ce que c'est aussi une influence littéraire qui t'a amené à vouloir travailler là-dessus ou qu'est-ce qui t'a amené à ça?
C'est Dostoïevski.
Okay.
Mais pourquoi Dostoïevski m'a touché autant, ça je ne le sais pas. Mais il y avait pour moi là quelque chose d'extraordinaire dans sa façon d'aller au plus profond de l'âme humaine puis de faire ressortir ce qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Puis une absence de jugement moral complète aussi par rapport à toutes les complexités de l'être humain. Ça, je pense que ça m'a bouleversé là, quand je l'ai lu au cégep la première fois, Dostoïevski, Crime et châtiment, puis Les carnets du sous-sol. Puis après ça, je me suis rendu compte que c'était de ça que j'avais envie de parler dans ce que j'écrivais. Quand on écrit là-dessus, on a toujours des doutes. Là. On se demande si c'est trop gros, si c'est invraisemblable, si l'on est allé trop loin. Mais quand on entend ce qui se passe autour de nous, des fois, on se rend compte que ça va très loin, ces choses-là, dans des états comme ça, de psychose notamment. Là.
Bien, je pense qu'une chose qui contribue à ce que ça soit crédible, c'est le miroir de ce que nous, on ressent qui nous est offert dans les autres personnages qui côtoient, des personnages qui sont affectés par des problèmes, entre autres Léo, qui est follement amoureux de sa Natalia, qui met du temps à se l'avouer, mais qui est vraiment...
Bien, lui, il a ses bébites aussi à régler,
oui,
assez importantes aussi, mais d'un autre ordre.
Apprendre pour lui à nommer le problème de Natalia, de dire qu'elle n'est pas seulement caractérielle et originale, ça lui prend un temps. Et nous aussi, en tant que lecteurs, en fait, on l'apprivoise petit à petit, on ne le nomme pas au premier écart de conduite.
Le défi avec Natalia, c'était de ne pas tomber dans le cliché de la femme qui incarne la poésie, un petit peu à la manière d'André Breton, puis l'espèce de muse intrigante, incompréhensible... fascinante en même temps, mais un peu folle, puis le fantasme de l'homme. Là. Je voulais pas tomber là-dedans trop, j'espère que je l'ai pas fait, là, mais c'était de ne pas l'accessoiriser comme un prétexte pour que l'auteur, puis le narrateur, puis le lecteur trouve ça donc fascinant, la folie. Fallait que ça soit une expérience humaine, c'était ça que je voulais. Fallait que Léo arrive à se mettre quand même à sa place à elle, à essayer de la comprendre. Fallait qu'on l'aime, Natalia, puis fallait qu'on la déteste aussi, puis fallait qu'on la comprenne pas, puis fallait qu'on la comprenne des fois,
qu'on ait de l'empathie, puis qu'on
ait donc envie qu'elle s'en sorte.
Puis en même temps, ils servent l'histoire. C'est pas des personnages, c'est pas des constructions de psyché que t'as fait purement pour nous amener à plonger dans l'âme humaine. Tu racontes beaucoup le territoire québécois, tu racontes beaucoup l'actualité, tu nous fais voyager sur les routes du Québec, mais c'est très, très ancré dans une réalité québécoise. C'est une volonté que tu as d'exprimer ça dans tes romans, de nous amener dans le territoire.
C'est là-dessus que j'ai envie d'écrire.
Ouais.
Ouais.
L'écriture libre peut faire peur. Sans thème imposé, on peut avoir l'impression de naviguer à vue, sans certitude d'arriver à bon port. Mais pour s'échauffer le muscle d'écriture, c'est un exercice des plus salutaires. On peut arriver de cette façon à explorer des zones que l'on ne connaissait pas en soi, et surtout, sortir de l'ombre de tout ce qu'on a déjà lu. Si les auteurs se laissaient arrêter par l'idée de tout ce que la littérature mondiale renferme de merveilles, ils ne se publieraient plus rien, pour notre plus grand malheur. Est-ce que tu attends de nous parler un petit peu du projet sur lequel tu travailles en ce moment?
Oui, avec plaisir. Là, présentement, je suis en train d'écrire le premier volet de ce que j'espère être une trilogie éventuellement, un recueil de nouvelles qui raconte l'histoire du Québec puis de la présence française en Amérique à travers nos peurs, nos obsessions, à travers des contes fantastiques, à travers des événements qui nous ont marqués, la révolte des Patriotes, par exemple, le conte de la Corriveau aussi. Je vais proposer une reprise de cette histoire-là. Des cataclysmes qu'il y a eu à Saint-Jean-Vianney, par exemple, le glissement de terrain au Saguenay. Bref, je m'inspire de différents moments de l'histoire du Québec, puis j'espère avoir une œuvre à la hauteur de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, dans un autre style là, complètement. Donc, le style plus classique là, cette fois-ci, mais quand même dans une sorte d'éclatement là, des zones d'ombre de l'humain, toujours, à travers l'histoire du Québec.
Est-ce que tu dirais que la place que tu as eue au primaire pour écrire à ta guise, puis en jouant avec les thèmes que tu voulais, puis en pouvoir faire sacrer tes personnages, puis en mettant en scène des cochons puis des poules qui font ce que bon te semble, puis en pouvant aussi les lire en ayant une rétroaction peut-être directe, en ayant l'occasion de les amener à tes collègues, est-ce que tu dirais que ça a un rôle important dans ta relation à l'écriture, dans le développement de ta relation à
Sûrement,
l'écriture?
très sûrement, parce que ça prend de la confiance en soi pour écrire. Moi, je pense que mon parcours au primaire, là, à l'école élémentaire, ça m'a aidé beaucoup à justement faire mes premières gammes, si on veut, là.
Mais puis en plus, comme tu n'étais pas cadré dans un style d'écriture ou dans un objectif de le chat à quatre pattes, machin, qui génère pas beaucoup de réactions chez les autres jeunes quand tu lis ce texte à voix haute, là, tu pouvais te permettre de faire des effets pour ton public.
Oui.
Donc, j'imagine que ça génère
le
plus
professeur
de...
disait pas, ben, ça n'a pas de bon sens, deux poules comme ça qui chantent Cocorico le matin, tu vas changer ça. On faisait pas mal ce qu'on voulait, là. Donc, cette liberté-là, oui, c'est sûr que ça joue un rôle.
Ah oui, c'est vrai. Je voulais te parler de ton inclusion du texte d'un grand classique de notre culture musicale dans une de tes un des épisodes de Jean-Paul, en fait. Hey,
oui.
Goodbye. Est-ce que c'est encore Timothée?
Je me souviens pas, mais sûrement. Quoique je regardais le hockey aussi.
Est-ce qu'il y a des gens qui te lisent aujourd'hui? Est-ce que tu fais lire tes manuscrits quand tu travailles? Est-ce qu'il y a du monde qui te commande puis qui, des fois, vont ajouter,
Très peu.
À part ton éditrice?
Très peu. Oui, parce que je me fais confiance, puis je fais confiance à mon éditrice. Puis j'ai un certain laisser-aller par rapport à la création qui fait que j'attendrai pas un mois là, avant de faire la révision, puis j'hésiterai pas, puis je ferai pas de nuit blanche, puis ni d'urticaire. Une fois que c'est fait, ben je pense que ça va, puis je l'envoie, puis...
Comme à l'époque où tu écrivais Jean-Paul.
C'est ça. Il sera jamais parfait, le texte, mais il faut se faire assez confiance pour se dire que c'est ça que tu avais à dire.
Nul homme n'est une île, un tout en soi. Chaque homme est partie du continent, partie du large. La mort de tout homme me diminue, parce que je suis membre du genre humain. Aussi, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas, il sonne pour toi. C'est le poète anglais John Donne qui dit ça. C'est beau et c'est vrai. Inutile de tenter de s'affranchir de tout, on gagne bien plus à connaître ses influences et encore plus à se connaître également soi-même suffisamment pour savoir créer son propre univers à partir de tous ces éléments de beau qui nous inspirent. C'est bien ce que fait François Racine dans ses romans, structurant ses histoires éminemment modernes et franchement désopilantes sur des architectures de grands amours littéraires. Lire, lire encore. Rien de tel pour se doter de fondations solides. Ah, aussi le pape de l'heure s'appelle François. Je dis ça, je dis rien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous avez entendu Les aventures de Jean-Paul, créées par François Racine, œuvre inédite à ce jour. Pour en savoir plus sur ses projets publiés aux éditions Québec-Amérique, consultez sa fiche d'auteur sur le site québec-amérique.com. À la production et à la technique, mon collègue Philippe Collard. À l'animation, Myriam Caron-Belzile. Le thème musical de l'émission est l'œuvre d'Adriana Crickle. Et l'autre pièce que vous avez entendue est une composition de Puddington Bear. Faut bien commencer quelque part est une production des éditions Québec-Amérique et est enregistrée devant public dans notre café littéraire, chez l'éditeur, situé sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un commentaire sur iTunes. Consultez la page du Café sur Facebook pour connaître la date de captation et le thème de notre prochain épisode.
Na 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 na, na 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 na, yeah, goodbye.
Salut, je m'appelle Nathaniel. Je viens vous présenter un café qui s'appelle Chez l'éditeur. C'est un endroit où on peut prendre un café, un chocolat chaud, une soupe. Mais bon, moi, j'aime mieux les biscuits et les chaussons aux pommes. C'est un endroit où on peut regarder et même acheter des livres. On peut même croiser des écrivains et des éditeurs. On peut aussi assister à des ateliers, des conférences et même des rencontres avec les auteurs. L'adresse est le 7240 rue Saint-Hubert à Montréal et les heures d'ouverture sont dès 7h la semaine et 9h la fin de semaine. Merci de m'avoir écouté. Bye!